Chapitre 20e. C'était le jour du vernissage. Tout le Paris enamouré d'art envahissait le palais. De longues files de voitures sillonnaient les Champs-Élysées, et après une courbe savante, déposaient devant le portail de jolies femmes aux toilettes claires. Des effluves de printemps passaient dans l'air. Les marronniers faisaient éclater leurs fusées de fleurs blanches sous le soleil. La première impression du visiteur au salon ne saurait se rendre. Dans le jardin du palais, les pâles statues découpent leurs lignes souples sur le fond vert des massifs. Tout un peuple de dieux, de héros et de nymphes accuse leur relief sous les rayons lumineux tombant des grandes verrières de couleurs. À côté des Vénus aux formes grêles, de grands fauves de bronze tordent leurs muscles puissants. Au bord d'un piédestal, un coursier se cabre, des génies déploient leurs ailes. Des sources couchées semblent mourir de langueur. Tout cela s'estompe dans une fine poussière d'or, soulevée par les jupes des visiteuses. Celle-ci passe au milieu d'un froufrou de soie, s'arrête devant chaque groupe, et la tête renversée, la taille cambrée, ajuste leurs binocles d'or avec des attitudes de marquise Pompadour ou de merveilleuse. Au fond, le grand escalier à deux descentes, cachant sa rampe sous des pentes de tapis orientaux, présente un perpétuel croisement d'habits noirs et de robes au ton clair. Dans les galeries hautes, où sont exposées les aquarelles, les gravures et les faïences, des têtes curieuses se penchent sur les balustres, regardant en bas les promeneurs et les statues qui s'écrasent à leurs yeux dans des raccourcis imprévus. En haut de l'escalier de pierre aux murailles tendues de tapisseries des gobelins s'ouvre la grande porte du temple des peintres. Les tableaux s'alignent là, de la cimaise à la frise. L'éclat des couleurs et le rutilement des ors éblouissent. Le jour est tamisé par un vélum blanc tendu en haut. Le flot humain se presse à chaque entrée et se répand dans les salles, attiré d'abord par les toiles éclatantes, fonçant sur les tons crus comme les taureaux sur le voile pourpré des espadas. Enfin, un peu d'ordre se fait dans ce chaos. Des groupes compacts se forment devant les toiles importantes, signées de noms connus ou signalées par les critiques. Des amateurs s'isolent devant de petits cadreaux, admirant à la loupe de bons morceaux de peinture. Des modernes se campent devant des envois de l'Institut et disent avec un inimitable sourire « Pas mal, quoique hors concours ». Des fervents de l'école s'arrêtent devant les toiles dites de plein air et constatent avec ironie l'influence du bleu dans les arts. Les salonniers prennent des notes. De belles petites se font expliquer le livret par des jeunes gens à monocle. Des italiennes, vêtues de leurs costumes bariolés, contemplent les figures peintes à leur image. Elles rient de plaisir en voyant admirer leur beauté et causent avec vivacité, montrant leurs dents blanches et secouant leurs grands anneaux d'or et leurs tresses brunes. Dans la salle de, la Salambo d'Henri avait eu les honneurs de la cimaise. Le public se pressait autour d'elle et admirait le brio de ses couleurs. Des amateurs trouvaient la tête remarquablement peinte, tout en constatant un peu d'inexpérience dans l'arrangement de la scène et une exécution peut-être trop soignée. En somme, c'était un excellent début pour le jeune peintre. Tous les critiques l'avaient signalé comme un talent plein de promesses, et cela suffisait à le mettre en lumière. Henri se tenait dans une salle voisine auprès du vieux Job et dessous les mâts suspendus à son bras. Elle semblait rayonnante de bonheur, et lui souriait à sa joie d'enfant. Cependant, une ombre restait sur le visage du jeune homme. Il lui manquait quelqu'un dans cette journée de triomphe. C'était Marthe. Tandis qu'il songeait à cette douce figure, sa vue se porta sur une femme habillée de rouge et s'avançant dans la salle avec la majesté d'une reine de Saba. Il tressaillit et devint tout pâle. C'était Lady Clarkson. Elle passa lentement dans sa massive beauté et jeta sur Henri un mauvais regard tandis que sa bouche se plissait dédaigneusement. Job la reconnut. La Syrienne remarqua son regard. « Quelle est cette grosse femme rousse ? » demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Henri. « Vous la regardiez cependant. » C'est l'opulence de sa forme qui nous la faisait remarquer. « C'est singulier, » ajouta la petite. « La façon dont elle nous a regardés m'a fait peur. »« Rentrons, » dit simplement Henri. On regagna l'atelier. Le vieux maître, arrivé depuis la veille, ne se lassait pas d'admirer son ingénieux arrangement. « Cependant, » disait-il, « j'aime mieux ma chapelle. À chacun son milieu. Tu es si bien ici pour peindre des orientales. » Claude Janet est bien parmi ses anticailles pour peindre du Moyen-Âge, et moi, vois-tu, je ne saurais peindre mes prophètes ailleurs qu'au vieux cimetière. À propos, tu sais que nous dînons chez Claude ce soir. Mais oui, Et si vous voulez vous y rendre le premier, mon bon Job, vous nous annoncerez. J'emmène Souleyma, et vous savez ce qu'il faut de temps aux jeunes femmes pour soigner leur costume. Oui, tu as raison. Et puis franchement, vous avez besoin, je pense, d'être un brin seul après les émotions de la journée. Job prit son large chapeau et serra la main de Henri. « À tout à l'heure, » dit-il. Le jeune homme, resté seul, alluma une cigarette et se prit à réfléchir à la présence de Lady Clarkson au salon. Souleyma s'habillait dans la pièce voisine. On entendait le frou-frou de sa robe. La servante entra et tendit une lettre à Henri. « On la porte à l'instant. » « Attend-on la réponse ?»« Non. » Il fit sauter le cachet et lut. Ses yeux se dilatèrent, son visage s'empourpra, et il poussa un cri rauque. Souleyma accourut. « Qu'y a-t-il ? Lis. » Il lui tendit le papier. La jeune femme se prit à trembler. « Ah, c'est horrible !» s'écria-t-elle en froissant la lettre, et elle se jeta sur la poitrine d'Henri en sanglotant. « Eh bien, as-tu lu ? Cette lettre t'accuse d'avoir commis une infamie pendant mon voyage à Mareuil. » Elle ne répondait pas et penchait la tête. Il la redressa brusquement. « Parle donc, je vais te dire. »« C'est donc vrai ?»« Non, écoute-moi, » dit-elle. Et haletante, la voix entrecoupée par les violentes pulsations de son cœur, elle lui raconta toute la scène. « C'est bien la vérité, toute la vérité. Je te le jure par ma mère et mon père mort. » Il la regarda fixement. « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je ne voulais pas te causer de peine. Je craignais que le souvenir de cette journée ne restât comme une ombre sur notre bonheur. J'ai eu tort, je le sens, mais tu peux me croire. Henri, dis-moi que tu ne doutes pas. » Il restait silencieux. « Réponds-moi, Henri, mon ami, je t'en supplie. » Elle se jeta à genoux. Lui ne semblait pas la voir. « Tu doutes. Tu ne m'aimes plus. Ah, malheur à moi !» cria-t-elle en tordant ses mains. « Veux-tu que je meure ? Me croiras-tu alors ?» Il la releva en lui disant simplement « Je te crois. » La servante était entrée. Elle aussi raconta la lutte soutenue par sa maîtresse. Henri, le front dans ses mains, cherchait à reprendre possession de lui-même. Tel qu'on lui avait dépeint l'homme, c'était Gaston, cela était certain. Mais comment avait-il connu son départ pour Mareuil ? Avait-il donc surpris la lettre de Marthe ? Il n'avait pu machiner seul toute cette infamie. Lady Clarkson l'y avait aidé. C'était elle qui lui envoyait ce billet anonyme. Elle se vengeait. Il voulait partir pour tromper Gaston et le tuer. Et Marthe, ne dirait-on pas qu'il avait séduit la femme avant d'assassiner le mari ? Et puis, grâce à Dieu, son misérable ami avait échoué. Souleyma était sauve. Elle le disait. Il voulait le croire. Tout cela se pressait dans son cerveau et l'affolait. Son cœur battait à coups précipités et semblait traversé de lames aiguës. Il sentit un grand dégoût de toute chose, sa tête vacilla et il tomba à la renverse. Quand il rouvrit les yeux, Souleyma, anxieuse, était penchée sur lui. Job, Claude Janet et un médecin l'entouraient. Celui-ci, en sortirant, prit le vieux maître à l'écart. « Le cœur est atteint, » lui dit-il. « Il ne lui faut pas d'émotions violentes et surtout pas de peine. Tâchez qu'il soit heureux. Car le bonheur seul pourra vous le conserver. » Henri se remit peu à peu. Après être resté plusieurs jours dans une sorte de torpeur, l'œil immobilisé par une pensée fixe, le sourire lui revint. Il fit de longues promenades avec Job. Le maître avait déclaré vouloir rester auprès de lui. « Voilà l'été, disait-il. Nous irons tous les trois faire un grand voyage au bord de la mer ou bien en Italie. Ah, l'Italie, il faut voir cela. » Et il lui parlait de sa jeunesse, des joyeuses histoires de l'école de Rome. Enfin, il n'épargnait rien pour distraire son cher enfant. Un soir, Souleyma semblait toute songeuse. « Qu'as-tu donc ? » lui demanda Henri. « Rien, je t'assure, mon ami. Tu me caches quelque chose. Oh, Dieu m'en garde. Je vais te confier mon secret. Et si tu m'aimes encore bien, cela ne te causera pas autre chose que de la joie. Dis, m'aimes-tu toujours ? Mais oui, allons, parle. « Eh bien, » dit la petite un peu confuse, « je crois que je deviendrai mère. » Henri ne répondit rien, mais son visage exprima une atroce douleur. « Mère !» Ce mot réveillait toutes ses incertitudes. Le doute revenait brusquement le torturer et lui broyait le cerveau de sa griffe. Il souffrait, jusque dans les fibres les plus cachées de son être, d'un mal que rien ne peut guérir. La nuit se faisait dans sa tête. « Plus rien !» Du noir, c'est elle seule où jadis brillait le talent, comme une tache de sang marque la place d'un mort.